Et pour démarrer cette émission, une image symbolique à vous montrer, ou plutôt quatre images qui résument ce qui est en train de se passer ce soir en Ukraine. Vous voyez, vous allez voir, ces soldats ukrainiens, drapeaux bleu et jaune de leur pays à la main, reprendre le contrôle de différentes localités dans l'Est, comme Borivka, Andrivka, Liman, également dans l'Est, 20 000 habitants. Dans le Sud, comme Miroliubivka, Novopetrivka. Là, on est dans la région de Kherson, et elle est là, la grande nouveauté ce soir. Les Russes reculent aussi dans le Sud, et ces scènes que vous voyez se sont répétées ces derniers jours et surtout ces dernières heures. Même l'état-major russe, dans les cartes qu'il a présentées ce soir, reconnaît un recul très clair de ses soldats. Volodymyr Zelensky parle de plusieurs dizaines de localités reprises ces derniers jours.
Aujourd'hui, nous avons de bonnes nouvelles du front. Premièrement, l'armée ukrainienne fait un mouvement assez rapide et puissant dans le sud de notre pays, dans le cadre de l'opération de défense actuelle. Des dizaines de villages ont été libérés de l'occupant russe cette semaine. C'est dans la région de Kherson, Kharkiv, Leni, Lugansk, mais aussi Donetsk. Et c'est loin d'être la liste complète. Nos guerriers ne s'arrêtent pas, et ce n'est qu'une question de temps avant que nous chassions l'occupant de toutes nos terres.
Voilà pour les toutes dernières déclarations de Volodymyr Zelensky. Et je lisais, même l'état-major russe, dans les cartes qu'il a présentées ce soir, reconnaît que ses troupes reculent nettement. On va voir ça sur nos cartes, colonel Goya. Nous voici donc face à la carte de l'Ukraine. On le rappelle, il y a deux zones qui nous intéressent particulièrement.
Oui, alors voilà la ligne de front qui fait à peu près 900 km. Il y a deux zones où les Ukrainiens progressent actuellement. C'est cette zone ici, c'est au nord d'Izium, dans la zone nord-est, près de la province de Luhansk. Et au sud, ici, dans la tête de pont qui est au-delà du Dniepr, à proximité de Kherson. Avec une hypothèse X, toujours la possibilité éventuellement, peut-être pour les Ukrainiens, d'attaquer entre les deux. Mais ça, on verra plus tard.
Pour l'instant, on n'y est pas. On va zoomer d'abord, si je ne me trompe pas, sur l'est du pays. La carte va arriver. Non, on est directement dans le sud. On a zoomé sur la ligne de front, on est directement dans le sud.
C'est très bien. Alors là, ce qui se passe, toute cette zone ici, que l'on voit, qui est la tête de pont au-delà du Dniepr, ça fait à peu près la taille d'un département français, pour situer à peu près. Et là, vous avez la ville de Kherson, qui fait une ville de 300 000 habitants, qui est également au-delà du Dniepr et qui est à 25 km de, à peu près, des premières lignes ukrainiennes. Et là, cette zone est attaquée depuis des mois, en réalité. Elle est pratiquement assiégée parce que les Ukrainiens frappent, ce qu'on appelle les frappes d'interdiction, le long du fleuve Dniepr, sur les ponts, notamment. Il y a trois ponts qui sont endommagés, il y a des pontons qui sont endommagés. Et donc, toute cette force russe qui est au-delà du Dniepr, 25 000 hommes à peu près, se trouve de plus en plus isolée et soumise à la pression.
On savait, colonel, que les Ukrainiens avançaient dans l'Est. On savait que c'était beaucoup plus difficile dans le Sud. Mais on va voir avec trois cartes, à trois étapes différentes, dans le Sud encore une fois. On est dans la région de Kherson, on va aller voir ces cartes. Elles arrivent qu'en très peu de temps, les Ukrainiens ont repris pas mal de terrain. C'est la zone en rosée, c'est la zone saumon ici, 19 septembre, 3 octobre on voit qu'on avance, et 4 octobre c'est la situation aujourd'hui. Voilà la zone récupérée par les Ukrainiens.
Là, on se trouve dans la zone nord de cette tête de pont.
Kherson est ici.
Kherson est beaucoup plus au sud.
Absolument.
Voilà. Là où vous voyez le fleuve Dniepr. Et là, ce qui se passe, c'est que c'est une zone qui est fortifiée. Tous les points rouges que vous voyez, en fait, ce sont des bastions russes qui sont tenus par des forces assez conséquentes. Et là, ce qui se passe, c'est la grande nouveauté, c'est qu'il y a des combats, des combats qui étaient difficiles, où les Ukrainiens avançaient pied à pied. Et là, ils ont réussi une percée le long du fleuve Dniepr jusqu'à la ville de Doutchani.
Doutchani, c'est ici. Voilà. Doutchani, c'est ici.
Et ça a contribué, parce qu'ils sont également ici, à créer une poche que les Russes sont en train d'évacuer parce que de peur d'être encerclés, tout simplement. Donc, ils sont en train de décrocher de cette zone, ce qui peut éventuellement anticiper un décrochage beaucoup plus important pour la suite. Et ensuite, les Ukrainiens menacent ici Nova Kakhovka, toute la région de Nova Kakhovka. Il y a Kherson au sud. Et Nova Kakhovka, c'est l'autre possibilité d'accéder l'autre passage sur le Dniepr. Voilà. Et ça aussi, c'est menacé. Donc, des progressions très rapides dans le nord et qui, à la fois, témoignent d'une certaine fragilité, d'une certaine vulnérabilité russe et qui laisse envisager que, finalement, cette bataille sera peut-être terminée plus vite que prévu. Et en tous les cas de figure, je reviens, il y a 25 000 hommes russes qui sont engagés dans cette tête de pont. Ça peut être un désastre très important pour l'armée russe.
On va essayer de comprendre dans une seconde l'ampleur et les raisons de ce recul russe. Mais avant ça, le terrain, on va aller sur le front Est avec nos envoyés spéciaux. Nicolas Coadou, on vous retrouve en direct. Vous êtes du côté de Droujkivka, ville libérée par les Ukrainiens. Racontez-nous, Nicolas, à cet endroit précis, comment les Russes ont battu en retraite.
Eh bien oui, ici, je vais vous raconter ce qu'on a vu aujourd'hui avec Thomas Boutin, avec Stéphane Bojard, ce qui est, je trouve, assez représentatif. En fait, dans toute cette région où les Russes sont partis, on observe de très larges tranchées, des kilomètres et des kilomètres de tranchées qui étaient occupées par les forces armées ukrainiennes. Eh bien désormais, ils ne sont plus là, le front s'est décalé, et c'est bien la preuve que ce qui était jusqu'alors une guerre de position arrêtée s'est transformée en guerre de mouvement. Alors oui, ici, les combats font encore rage, notamment du côté de Bakhmout, mais les Ukrainiens avancent désormais. Ils sont dans la ville de Kremina et cette prise très récente de la ville de Liman leur est extrêmement utile pour poursuivre cette offensive dans l'est du pays.
Merci à vous Nicolas Coadou avec Stéphane Bojard et Thomas Boutin en direct ce soir pour 22h max. Merci messieurs. Elsa Vidal, ce qui frappe ce soir, il y a une scène qui frappe ce soir, c'est que comme tous les jours l'état-major russe, ou quasiment tous les jours, a présenté l'avancée des combats. Et sauf que quand les journalistes ont vu les cartes qui étaient présentées par les Russes, ils se sont aperçus que les Russes eux-mêmes ont admis ce soir qu'ils avaient sacrément reculé ces dernières heures.
Oui, mais dans la terminologie qui a été employée aujourd'hui, c'était une stabilisation du front. Mmh. Alors l'ironie va bon train sur les réseaux sociaux et sur Internet, puisqu'on dit alors on stabilise le front sur les limites d'avant. Mais effectivement, il y a des reculs qui vont être de plus en plus difficiles à expliquer. Bien sûr, ils sont présentés comme des replis stratégiques, comme des choix délibérés. C'est de plus en plus difficile dans cette période, d'autant qu'il y a une séquence quand même de victoires qui s'enchaînent du côté ukrainien.
Il y a, Ulysse Gosset, une accélération de la guerre, des mouvements dans cette guerre ce soir.
Écoutez, ce qui est assez remarquable, c'est qu'effectivement, on est entré dans une guerre de mouvements qui a commencé, il faut le rappeler, il y a 2 mois, mais là qui effectivement accélère le tempo, puisque on a donc chaque jour 3, 4, 5, 10 villages qui tombent. Alors les généraux russes, on les a vus dans les commentaires officiels, parlent avec mépris de quelques villages qui sont tombés. C'est pas grave, mais là on voit qu'aujourd'hui, ce soir, eh bien c'est la grande ville de Kherson qui est maintenant l'objectif des Ukrainiens. Alors ça ne veut pas dire qu'ils iront jusqu'à Kherson et qu'ils prendront Kherson, mais c'est devenu une hypothèse possible. Et donc, oui, il y a une forme d'accélération de l'histoire, parce qu'il y a en même temps cette guerre de mouvement, de prise en tenaille de tout un territoire dans le sud, mais il y a toujours cette guerre de siège aussi qui continue et qui fait que, dans certains endroits, les Russes sont encerclés. Et donc, ils ont un besoin de logistique, de vivres, de matériel, de munitions. Donc, ça devient très compliqué. Et puis, si en plus, l'état-major à Moscou publie des cartes qui reflètent effectivement ces revers russes, ça fait déjà plusieurs jours qu'on se demande si on n'est pas à un tournant de la guerre. En tout cas, il est clair que les Ukrainiens veulent vraiment aller le plus vite possible avant l'hiver, avant même l'automne boueux, les pluies, les routes qui sont impraticables, et puis la neige de l'hiver, parce que à ce moment-là, le front sera gelé, stabilisé. Donc, ils vont tout faire pour aller le plus loin possible, et les Russes, de leur côté, vont tout faire pour ralentir leur progression, jusqu'au moment où ils auront les réserves, en tout cas espèrent-ils, liées à la mobilisation qui, on l'a appris aujourd'hui, avait quand même permis officiellement de rassembler quelques 200 000 hommes. Donc on a cette course de vitesse des deux côtés, les Ukrainiens qui avancent, les Russes qui essayent de retenir au maximum. Mais c'est vrai que ce soir, ce soir, on voit que la guerre prend une nouvelle tournure et personne ne s'y attendait il y a encore quelques semaines.
Et les alliés occidentaux, les Américains notamment, en sont d'ailleurs convaincus qu'on est à un moment très important, il y a un momentum, même si les Américains ne disent pas grand-chose. Hein. On a vu pendant toute cette préparation de cette contre-offensive, ils ont donné quelques détails une fois que ça a été démarré. Mais les Américains, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont annoncé, comme ils le font régulièrement, mais l'envoi
une nouvelle aide
militaire, 625 millions de dollars d'aide, avec notamment de l'aide pour l'achat de HIMARS, hein, ces lance-roquettes. Donc il y a une impression qu'effectivement, il faut aller très vite et qu'il y a là la possibilité de faire une différence sur le terrain.
Et c'est ce que nous analysons ce soir sur BFM TV. Dans une seconde, je vous pose clairement la question. L'armée russe est-elle tout simplement en train de s'effondrer ? À tout de suite.